RFI 22h, à Paris 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Volodymyr Zelensky, prêt à échanger son poste contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, le président ukrainien qui veut que la Russie soit dissuadée de toute nouvelle agression. En Allemagne, Friedrich Merz en route pour devenir chancelier après la victoire de son camp aux législatives. Selon les sondages de sortie des urnes, le conservateur veut former un gouvernement aussi vite que possible pour agir face aux défis internationaux du moment. À Gaza, le Hamas accuse Israël de mettre en péril la trêve en bloquant la libération des prisonniers palestiniens qui devaient être relâchés hier. De nouveaux États favorables au projet de taxe carbone sur le transport maritime. Les discussions se poursuivent, mais les ONG dénoncent un manque d'ambition. Ça fera 3 ans demain que la Russie a envahi l'Ukraine, 3 ans de guerre. Et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la donne a changé. Face au président américain qui veut négocier un accord avec la Russie, le chef d'État ukrainien espère que sa rencontre demain avec des dirigeants européens constituera un tournant. Volodymyr Zelensky, qui est prêt à mettre sa démission dans la balance si ça peut servir à rétablir la paix dans son pays et permettre une adhésion à l'OTAN. On l'écoute.
Si l'on parle de la paix en Ukraine et qu'en échange je dois quitter mon poste, je le ferai. Deuxièmement, je le ferai aussi si c'était la condition pour adhérer à l'OTAN. Je le ferai immédiatement sans que nous ayons à en parler longuement. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et pas dans 20 ans. Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pour des décennies. Par conséquent, cette sécurité de mon pays, c'est mon but et mon rêve.
L'Ukraine qui sera aussi au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président français doit arriver à Washington demain lundi. Le locataire de la Maison-Blanche a lancé des négociations de paix sur l'Ukraine, mais sans les Européens. Alors, quel poids diplomatique l'Europe peut-elle avoir aux yeux du président américain? Notre correspondant David Thompson a posé la question à un influenceur pro-Trump qui faisait partie de la délégation américaine qui s'est rendue à Kiev la semaine dernière.
C'est un influenceur pro-Trump suivi par plus de 3 millions d'abonnés et c'est bien pour cela que Jack Posobiec a été invité à faire partie de la délégation officielle du secrétaire au trésor américain à Kiev le 12 février dernier. Un influenceur invité à la table des grands. Posobiec était dans la même pièce que Scott Bessent et Volodymyr Zelensky lorsque le secrétaire au trésor américain a tenté d'imposer au président ukrainien de signer un accord sur les minéraux stratégiques demandant à l'Ukraine de céder la moitié de ses terres rares aux États-Unis sous peine de mettre fin à son soutien militaire. Posobiec a tout relayé en direct sur ses réseaux sociaux. Objectif, montrer à la base trumpiste le changement de ton de la nouvelle administration vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi de son vieil allié européen tenu à l'écart de ces négociations.
Le président Trump a compris que l'Europe n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois. L'Europe ne s'est pas assez engagée financièrement dans la guerre. Ça s'inscrit dans sa critique plus large de l'OTAN quand il rappelle que ce sont les États-Unis qui payent pour la majeure partie des troupes et pour la majeure partie des armements à travers l'Europe.
Et c'est justement dans l'espoir de casser cet isolement de l'Europe, spectatrice du rapprochement entre États-Unis et Russie, que le président français Emmanuel Macron rencontrera Donald Trump à la Maison-Blanche ce lundi. David Thompson, Washington RFI.
La France doit produire plus pour mieux manger, déclaration de la ministre de l'Agriculture aujourd'hui au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes hier à Paris. Dans ce moment de grand bouleversement de l'ordre international, la France doit affirmer sa souveraineté agricole comme un enjeu régalien, a dit Annie Genevard. Dans ce discours, il n'a pas du tout été question de transition agroécologique, ce qui était jusqu'à l'an dernier présenté comme une priorité pour le gouvernement. Une position saluée par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Pour Friedrich Merz, l'Europe doit se renforcer jusqu'à son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Déclaration ce soir du chef des chrétiens démocrates allemands. Son parti arrive en tête dans les sondages de sortie des urnes. Les Allemands étaient appelés à voter aujourd'hui pour désigner leur futur député. Les conservateurs obtiennent, d'après les sondages, un peu moins de 30% des suffrages. Ils devront rapidement trouver un ou des partenaires pour établir une coalition. Et le futur chancelier, donc Friedrich Merz, a pris la parole au siège de son parti et souligné que son pays devait rapidement disposer d'un gouvernement.
Nous avons gagné cette élection. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe. Je sais que ce ne sera pas facile. Il nous faut le plus possible un gouvernement stable. Le monde autour de nous ne nous attend pas. Il n'attend pas le résultat de longues négociations pour une coalition qui n'en finisse pas. Nous devons rapidement être capables de travailler pour nos réformes en Allemagne, pour être présents en Europe et pour que le monde sache que l'Allemagne est de nouveau gouvernée de façon fiable.
Zuverlässig regiert.
Friedrich Merz, ce dimanche soir, au siège de son parti. De son côté, l'AFD, l'extrême droite allemande, arrive en deuxième position, toujours selon les sondages. Et le chancelier sortant, Olaf Scholz, a lui dit assumer la responsabilité de la défaite. Israël se dit prêt à reprendre les combats à Gaza. La première phase de cessez-le-feu est censée se terminer le 1er mars, mais les négociations prévues pour la suite n'ont toujours pas démarré. Et la décision israélienne de retarder la libération des quelques 600 prisonniers palestiniens qui devaient être relâchés hier rend la suite du processus de plus en plus incertain. Le Premier ministre israélien entend protester contre les cérémonies organisées par le Hamas autour de ces libérations d'otages. Pour le Hamas, il s'agit d'une violation claire du cessez-le-feu. L'attente s'est poursuivie aujourd'hui à Ramallah, Pierre-Olivier.
Il n'y a pas qu'à Ramallah qu'on attend la libération des prisonniers. À Gaza aussi, des centaines de familles ont pris leur mal en patience toute la journée et cela pourrait encore durer. En cause, des pourparlers pour l'instant assez infructueux entre le Hamas, Israël et les médiateurs. Benjamin Netanyahou refuse de libérer les 602 prisonniers tant qu'il n'aura pas la garantie que le Hamas ne fera plus de mise en scène humiliante lors des prochains échanges d'otages. En attendant, ici, à Ramallah, les proches des prisonniers ont déserté le centre culturel où doivent arriver les autocars lors de leur libération. Certaines familles venues de l'autre bout de la Cisjordanie occupée ont été gracieusement logées à l'hôtel par l'autorité palestinienne en attendant de pouvoir enfin retrouver leurs proches. Parmi les prisonniers qui doivent être libérés, certains sont condamnés à plus de 250 années de prison et les familles s'estiment donc malgré tout plutôt chanceuses dans leur malheur. Reste que tant que ces détenus ne seront pas sortis de prison, tout peut arriver et la tension est à son comble. Un leader du Hamas a déclaré cet après-midi que les discussions avec Israël seront très difficiles tant que les prisonniers ne seront pas libérés. Pierre-Olivier Ramallah, RFI.
Et en Cisjordanie occupée, Israël a annoncé étendre ses opérations militaires et donner ordre aux 40 000 habitants de trois camps de réfugiés de quitter leur maison et interdit leur retour pendant près d'une année, durée pendant laquelle le ministre israélien de la Défense veut que ses troupes opèrent. Le nouveau président syrien Ahmed al-Shara a été convié au sommet arabe sur Gaza qui aura lieu au Caire le 4 mars. C'est une première invitation à un sommet de la Ligue arabe depuis qu'il a chassé Bachar al-Assad de Damas. 112 migrants secourus lors de deux sauvetages ce week-end au large des côtes libyennes. C'est l'ONG SOS Méditerranée qui l'annonce. Son navire Ocean Viking fait route vers Livourne, le port assigné par les autorités italiennes pour débarquer. Le projet de taxe carbone sur le transport des navires recueille de plus en plus de soutien à l'international. 13 nouveaux pays sont favorables à une taxe sur les émissions des navires. Mais dans l'ensemble, les négociations ont déçu. Constance Dijkstra de l'ONG Transport et Environnement l'écoute.
Un sujet clé, c'est de savoir ce qu'est un carburant propre et d'avoir une définition claire. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, alors que c'est quand même un sujet crucial quand on parle de décarbonation du maritime. L'autre sujet, c'est évidemment en lien avec la taxe carbone. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de compromis. On a une proposition qui a été soumise par Singapour, mais dont les contours ne sont pas clairs à l'heure actuelle et n'ont pas du tout été débattus. Ce serait d'essayer de faire une taxe qui ressemblerait plus à une taxe à deux niveaux selon le niveau de décarbonation des navires. On a les BRICS, l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil, qui eux ne sont pas pour cette taxe carbone. Et donc, il va falloir à un moment arriver à une solution de compromis si on veut pouvoir avoir un deal finalement.
Constance Dijkstra, jointe par Pauline Glaise.